Les cours du Collège de France, Nathalie Bajos, chère Santé publique.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de venir assister à cette première séance et j'espère à celles qui vont suivre. Il reste encore quelques places devant. Sinon, je ne sais pas. J'ai pas l'habitude, donc je ne sais pas comment. Si vous pouvez vous asseoir dans les escaliers, peut-être, je ne sais pas. Bon, voilà, donc pour celles et ceux qui n'étaient pas à la leçon inaugurale du 3 avril dernier, donc je suis Nathalie Bajos, je suis sociologue et démographe, je suis directrice de recherche à l'INSERM et à l'École des hautes études en sciences sociales, et donc j'ai la chaire de santé publique pour cette année sur la thématique de la production sociale des inégalités de santé. En fait, je vais quand même un petit peu faire le pari que vous avez entendu ce que j'ai raconté la dernière fois dans cette leçon inaugurale où j'ai essayé un peu de poser le cadre problématique général d'une série de 8 séances que je vais décliner à partir d'aujourd'hui. Et en fait, la façon dont j'ai conçu un peu ce programme, c'était de traiter différentes questions de santé à travers les 8 séances, vous allez le voir, en se situant à différentes étapes du processus de production des inégalités de santé. J'ai aussi voulu choisir des interventions qui se centraient sur différentes populations. Donc on aura des topos sur la population générale, sur les médecins, sur les personnes privées de liberté ou sur certaines zones géographiques, et on le verra juste tout à l'heure avec l'intervention de ma collègue Laure Pitti sur la Seine-Saint-Denis, et puis aussi sur différentes zones géographiques, notamment en France hexagonale, dans des quartiers populaires, et puis des interventions, vous le verrez, qui s'appuient sur différentes méthodes en sciences sociales, c'est-à-dire des enquêtes quantitatives, des entretiens, des observations, des analyses d'archives et de l'analyse de recommandations médicales. Donc en fait, voilà, ce que j'ai souhaité faire dans ces 8 séances, c'est vous proposer un panorama qui soit très divers, alors évidemment pas exhaustif hein, de tout ce qui se fait dans le domaine, mais voilà, l'idée c'est vraiment une grande diversité, et la chaire se conclura le 26 juin prochain par un colloque international qui sera en français et en anglais, j'organise avec mes collègues de l'équipe Gendy dont je vous reparlerai, et là l'idée qu'on a eue c'est de faire dialoguer des disciplines, là vous allez voir c'est vraiment les sciences sociales, ce que les sciences sociales ont à dire sur la production des inégalités de santé, et dans ce colloque on va faire dialoguer des sociologues, des anthropologues, des économistes, des démographes, des épidémiologistes en France et dans différents pays du monde, et à chaque fois de faire dialoguer chaque discipline nous propose une explication, un modèle théorique, mais confronté à des données empiriques. Donc ce ne sera pas du tout que théorique ni que empirique, ce sera voilà le modèle qu'on a mis au point pour comprendre comment se construisent ces inégalités, et voilà les données comment on peut, à travers des données d'enquête, quantitatives ou qualitatives, tester les modèles théoriques qu'on propose. Voilà, et ça ce sera un colloque d'une journée franco-anglais avec des gens passionnants. Et d'ailleurs les gens que vous allez entendre pendant ces séances. Alors, si ça veut. Ah non, il faut que je lance le pardon. C'est un peu compliqué, pardon. C'est le premier jour. Il est parti, au secours. J'appuie sur quoi, là? Pardon. Parce que je vois rien, en fait. Dans le diaporama? Voilà. Donc, juste très rapidement, donc aujourd'hui, on va parler de Covid. J'ai beaucoup travaillé sur le Covid, hein. Donc en fait j'ai essayé de prendre quand même des sujets que je connaissais, donc ça limite aussi. Donc vous allez avoir deux fois du Covid, une fois aujourd'hui sur les questions de conditions de vie et une autre fois sur les questions d'expérience de discrimination. À chaque fois j'ai invité une ou un spécialiste du sujet, mais qui a évidemment des propos différents de ce que je vous raconterai juste avant. Ensuite, donc la deuxième séance la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus autour de la problématique des discriminations avec l'exemple du Covid. Ensuite, on parlera des maladies cardiovasculaires. en se demandant si l'infarctus du myocarde a-t-il un genre. Alors, je spoil, oui, il a un genre socialement construit, mais pas physiopathologique, mais on reviendra dessus. Et puis une de mes collègues parlera de ce qui se passe après un AVC, comment les gens récupèrent après un AVC. Ensuite, sur la santé mentale, le genre de la dépression, est-ce que la dépression a un genre? Je spoil, oui. Et ensuite, on se focalisera sur la question de la santé mentale en prison, avec Camille Ancelevé. Ensuite, bon, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la sexualité, donc on aura deux séances sur la sexualité, la façon dont les questions de santé dans le domaine de la sexualité se comprennent, vraiment si on comprend comment se structure l'activité sexuelle et qui est en pleine évolution ces derniers temps, donc on aura une séance là-dessus, et puis une intervention spécifique sur les minorités sexuelles et de genre. Ensuite, il y aura une séance sur l'avortement, parce que ça, c'est mes jeunes années, mais enfin, je continue à travailler dessus. Et puis, on aura, c'est le contrôle sur le corps reproductif des femmes qui sera traité, et puis avec une intervention sur la façon dont les médecins prennent aujourd'hui en charge encore, enfin, comment aujourd'hui ils prennent en charge l'avortement. Et puis, santé et environnement, parce que c'est, moi, j'ai pas travaillé dessus, mais ça me paraissait quand même incroyable, enfin, impossible d'éluder cette question fondamentale. Donc sur les accidents du travail où je vais m'appuyer sur des recherches que j'ai pas faites, mais sur toute une revue de la littérature. Et puis un de mes collègues qui présentera la question des enfants, des victimes pédiatriques avec les expositions aux contaminations industrielles. Et puis on terminera par les maladies professionnelles, avec un enjeu majeur de santé publique sur la non-reconnaissance des maladies professionnelles. Et puis une intervention sur la façon dont les cancers professionnels et en particulier des femmes sont invisibilisées et pourquoi. Voilà. Donc à chaque fois, c'est des éléments de réflexion, de discussion et qui sont censés aussi nourrir les politiques publiques, la réflexion pour essayer de réduire ces inégalités. Alors, d'après ce que j'ai compris, je vais faire une intervention, mais je vais garder un peu de temps pour les questions et la discussion après. Si c'est pas clair, vous pouvez m'interrompre, hein, pendant vous faites ça, et puis je vous verrai, j'espère. Sinon, vous prenez la parole en me disant, enfin, c'est pas clair. Normalement, c'est clair, hein, mais si ça l'est pas, non, mais j'ai bien tenu compte de la diversité du public, donc je vais pas jargonner. Mais bon, s'il y a des choses pas claires, vous me le dites. Voilà. Alors, on y va, on attaque. Sur les logiques structurelles de l'exposition au risque. J'ai voulu axer mes travaux, la présentation de mes travaux collectifs, c'est toute une équipe hein, qui travaille sur ce sujet, sur la question de l'exposition au risque, parce que je trouve que c'est une étape qui est très souvent délaissée dans l'analyse des problèmes de santé publique. Donc le plan de la séance, je vais faire une introduction, je vais vous donner quelques éléments sur l'ampleur des inégalités d'exposition au risque, les conditions de vie, quelques données sur les pratiques préventives avant que la vaccination n'existe, les conditions de travail qui sont, vous allez le voir, un enjeu extrêmement important et qui a été maltraité de mon point de vue, en tout cas qui s'est concentré beaucoup sur les professions médicales, et puis quelques indicateurs là parce qu'il y a une publication qui vient de sortir la semaine dernière qui est assez incroyable sur les questions de prise en charge et de décès. Voilà. Alors, le cadre problématique, je vais passer assez rapidement parce qu'encore une fois, je l'ai beaucoup développé dans la leçon du 3 avril, mais c'est toujours, et de toute façon, vous allez la voir si vous suivez les séances, vous allez la voir la même chose à chaque fois. Pas cette diapo, parce que je vous la mets qu'une fois, je vous épargnerai à chaque fois, mais à chaque fois, l'idée, c'est de considérer que ce qui se passe, les inégalités de santé, donc ce qui se passe dans les corps, ici, le risque de contracter le virus du Covid, c'est la manifestation, comme disait Bourdieu, de la structuration hiérarchisée de l'espace social par les rapports de domination, de genre, de classe, de race, qui s'expriment dans les corps. Et ces rapports sont consubstantiels, c'est-à-dire, là, je reprends, comme je l'avais déjà dit, les travaux des premières sociologues féministes, Danielle Kergoat, mais après, il y en a eu plusieurs, dont les travaux les plus connus de Kimberlé Crenshaw, qui a, pour la première fois, utilisé dans la littérature scientifique le terme d'intersectionnalité. Alors, en fait, c'est quand même assez simple. C'est l'idée que ces rapports sociaux de domination, les rapports de genre d'un côté, les rapports de classe de l'autre, les rapports de race d'un troisième côté, il peut y en avoir d'autres, hein, mais c'est les plus structurants. Ben, l'idée de l'intersectionnalité ou de la consubstantialité, c'est un peu plus détaillé, mais c'est que ces rapports, ils fonctionnent pas indépendamment les uns les autres. C'est-à-dire, en gros, être une femme, ça veut rien dire. si on vous dit pas, si, voilà, être PDGère de L'Oréal, c'est pas pareil, et d'être héritière d'une grande famille et d'être française, née de parents français, née d'arrière-grands-parents français, etc. Ben, c'est évidemment pas pareil que d'être aide-soignante, immigrée du Mali et travailler dans un hôpital en pleine période de Covid. Donc, c'est, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout simplement ça. Juste avant de venir, j'avais d'ailleurs envie de décaler le cours parce que il y avait une émission très intéressante sur France Inter sur le fameux leak qui vient de sortir face à l'angoisse du wokisme, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Non, c'est un livre qui vient de sortir au PUF. Voilà, merci. C'est face à l'obscurantisme wokiste. Alors bon, ici, on ne fait pas du wokisme, moi, je fais de l'analyse scientifique intersectionnelle. Et en fait, il y a tout un délire autour du wokisme, bon, en tout cas dans le domaine scientifique et dans ce lieu prestigieux. On parle d'intersectionnalité ou de consubstantialité. Et l'idée toute simple, vous en conviendrez, c'est que ces rapports de domination qui sont établis dans toute la littérature sociologique, ben voilà, ils ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres. Et l'invention géniale, c'est de dire ben, on va tenir compte simultanément de ces différents rapports pour comprendre la réalité sociale. Et vous allez le voir à travers toutes les séances qu'on va traiter ensemble. Alors, le schéma que je reprends, donc c'est par rapport, qui est inspiré du travail qu'on fait avec mes collègues de l'équipe GENDI, Muriel Darmon, Pierre-Yves Joffard et Michel Kelly-Irving. Donc vous voyez, en fait, c'est toute une chaîne. Ce que j'aurais essayé d'éclairer, c'est ça à la fin. Je vais partir de la fin pour remonter dans le temps, pour essayer de vous montrer comment on peut comprendre qu'il y ait autant de différences de mortalité et de morbidité selon les caractéristiques sociales. Et en fait, cet événement de mortalité ou de morbidité, qui est celui sur lequel, en général, les études épidémiologiques se focalisent, ben, c'est le résultat, c'est le fruit de toute une série d'étapes qui s'enchaînent les unes aux autres, à commencer par ce qu'on va voir aujourd'hui, les conditions de vie et de travail qui vont déterminer un certain niveau d'exposition au virus. Ensuite, entre être exposé et être infecté, ben, il y a le fait d'avoir utilisé des pratiques de prévention ou le vaccin. Effectivement, à exposition équivalente, si vous êtes vacciné, ben, vous n'allez pas être contaminé de la même manière. Et si vous avez utilisé des pratiques de prévention, vous n'allez pas avoir une exposition, une infection de même manière. Ensuite, le recours aux tests qui peut faciliter un accès plus rapide au système de santé. Et puis, la façon dont vous allez être pris en charge, comment vous allez accéder plus ou moins rapidement au système de soins, de la façon dont vous allez être pris en charge, et ce qui va déterminer à la fin ben, des issues plus ou moins heureuses, voire pas du tout heureuses et fatales, qu'on va revoir dans les statistiques. Et puis ça, cette dernière étape dépendant bien évidemment de la question des comorbidités et de la fragilité. Donc en fait, l'étape sur laquelle je voudrais insister, c'est celle-ci, là, vraiment la première, montrer que dès le début, il y a des inégalités très importantes dans l'exposition au risque et qu'en fait, qui vont se renforcer par la suite. Voilà, vous allez voir, je vais vous emmener sur ce petit schéma pendant l'heure qui vient. Quelques données statistiques sur l'ampleur de ce dont je parle. C'est pour vous dire, je vous remets quelques années en arrière. Le Covid, ça a commencé fin 2019, hein, vous vous souvenez. Le confinement, c'était le 15 ou 16 mars, je crois. Dès avril 2020, donc vous voyez, c'est très rapide, hein, on était à peine confinés, que les Anglais publiaient déjà des données qui rapportaient une surmortalité très importante selon la profession. Alors, c'est pas la peine de regarder les graphiques dans le détail, hein, je pourrais vous les donner après pour celles et ceux que ça intéresse, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a un gradient. Non, zut, alors ça va, je vais y arriver, hein. Non, je suis plus au bon, mais voilà. Voilà, vous voyez, entre les managers, etc., et ce qu'ils appellent les occupations élémentaires, vous voyez qu'il y a quand même, et les personnes qui sont dans le care, et tous les services de soins, etc., vous voyez qu'il y a un gradient de mortalité qui est quand même très marqué selon la profession que les gens exercent. Et toujours les Anglais ont aussi montré, pareil, en 2020, tout de suite, hein, parce qu'ils ont ces données dans leurs statistiques, alors que nous, on les a pas. Ils ont montré aussi, par rapport à la population de référence, les Blancs, donc à chaque fois, vous avez les mâles, les hommes et les femmes, vous voyez, les populations noires, asiatiques, multiples ethnies, groupes et autres. Vous voyez les traits, hein, tout simplement, sans être expert en lecture de graphique, vous voyez qu'il y a une surmortalité très importante des minorités racisées par rapport aux personnes blanches. Et ça, c'est la façon dont c'est blanc, noir, etc., c'est la façon dont les gens se déclarent dans le recensement. On pourra revenir dessus, j'en ai dit quelques mots le 3 avril, si vous voulez, sur ces questions de statistiques dites ethno-raciales. Alors, la même chose aux États-Unis en 2020, pareil, là c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont mis sur les deux variables de profession et de minorité racisée dans la même diapo. Et en gros, là c'est pareil, vous voyez que il y a les hommes hispaniques ont un risque de mortalité 27 fois supérieur aux hommes blancs, et que vous avez aussi pour les hommes noirs pareil par rapport aux hommes blancs. Et ça, c'est selon les métiers, mais même pour les métiers vous voyez là ici, c'est les différents niveaux de métiers. Dans tous les cas, pour les hommes et pour les femmes, on retrouve la même chose, c'est-à-dire une surmortalité pour les personnes qui appartiennent aux catégories sociales les plus défavorisées, plus une surmortalité pour les personnes qui sont appartenant à une minorité racisée. Voilà, des données sans appel, j'ai envie de dire. En France, avec nos pauvres données, où on a juste le lieu de naissance des gens, on a pu, et ça j'ai repris une infographie du Monde qui est très bien faite, montrer dès mars 2020, en comparant avec les données de mars 2019, donc un an avant le Covid, vous voyez, on voit une surreprésentation importante de la mortalité en Seine-Saint-Denis par rapport à d'autres, par exemple par rapport à la Seine-et-Marne, où la surmortalité lié au Covid, parce que ce qui changeait entre mars 2019 et mars 2020, c'est le Covid et toute la première série de mortalité. Vous avez plus 129% de mortalité en Seine-Saint-Denis. Bon, ça a touché toute la France, bien sûr, hein, mais 129% ici, et ici, vous avez 65% en Seine-et-Marne. Donc, vous voyez, selon le lieu de résidence, et l'autre donnée qu'on a pu montrer en France, où encore une fois, on ne dispose que du lieu de naissance des personnes, c'est... Alors, un phénomène qui est bien connu par les démographes, c'est ce qu'on appelle le health migrant effect, c'est-à-dire que les populations qui migrent en général, elles sont en meilleure santé que les autres. Donc, vous voyez, avant l'année fatidique de 2020, vous avez une meilleure... les personnes françaises, elles sont là, en termes de mortalité, et vous voyez, tous les groupes sont en dessous, parce qu'ils sont en meilleure santé... Si, non, vous me regardez, mais je vous assure, c'est ça. Enfin, vous me regardez, heureusement que vous me regardez, mais avec un air interrogatif. C'est tout à fait ça. Vous avez ici les taux de mortalité pour la population née en France et, par exemple, les taux de mortalité pour la population née en Afrique subsaharienne. Avant, c'est le health migrant effect, les personnes qui migrent sont en meilleure santé que... parce que pour migrer, il faut être en bonne santé, et donc elles arrivent en meilleure santé. Ensuite, leur état de santé se dégrade au fur et à mesure qu'elles vivent dans le pays. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée que les migrants sont en meilleure santé avant, quand ils arrivent dans un pays d'accueil. Et vous voyez là l'évolution absolument spectaculaire ici, de la mortalité entre 2019 et 2020. Et vous voyez, alors moi je vois pas très bien en fait, je vais venir là. Voilà, si on prend les personnes nées en Afrique subsaharienne, vous voyez que la flèche là, à quelle vitesse elle est montée, la flèche ici, ça veut dire qu'ils ont été touchés par une surmortalité de manière spectaculairement plus élevée que les personnes nées en France. Tout le monde a connu une surmortalité avec le Covid. Mais vous voyez que les pentes, si on les prolonge, vous voyez, ça fait ça, et là, ça monte... j'allais faire un très mauvais jeu de mots, donc je vais pas le faire. Voilà. Vous voyez, c'est des pentes d'exposition sur risque qui sont très très différentes selon l'appartenance à une minorité racisée. Voilà. Donc, et j'avais dit la dernière fois que la surmortalité était plus de 18 fois plus élevée pour les personnes nées en Afrique subsaharienne que par rapport aux personnes nées en France pendant cette période. Une surmortalité, mais extrêmement importante, qui s'explique en partie, mais pas que, par le fait que les populations migrantes nées en Afrique subsaharienne, en fait, elles vivaient plus souvent dans les lieux où le virus circulait davantage. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, la synthèse de la littérature internationale, en gros, selon le sexe, c'est très, très, très discuté, mais l'immense majorité ne montre pas de différence d'exposition entre les hommes et les femmes. l'immense majorité des études. Selon la position socio-économique, toutes les études, je parle au niveau des études au niveau international, toutes les études retrouvent que les personnes qui ont moins de revenus, un niveau d'éducation moins élevé, des familles très nombreuses ont été davantage exposées, et les travailleurs de première ligne qui travaillent dans le domaine de la santé, de la vente au détail, dans les transports publics, ont partout dans tous les pays des taux d'exposition plus élevés. Et selon la position raciale, partout dans tous les pays, je vous ai montré deux exemples, des augmentations de risques très importantes. Mais aucune des études qui ont été publiées au niveau international ne s'inscrit dans une perspective dite intersectionnelle, c'est-à-dire qui tienne compte en même temps du genre, de la classe et de la race. Alors, comment on peut rendre compte de ces différences sociales de contamination et après de mortalité? Il y a bien sûr des facteurs biomédicaux comme l'âge, hein, parce que plus on vieillit, plus on est fragile. Les comorbidités, si vous avez des comorbidités importantes en termes d'hypertension, de diabète ou autre, vous êtes d'obésité, vous êtes plus à risque en cas de Covid de décéder. Et puis éventuellement, c'est toujours interrogé, des facteurs génétiques. Mais au-delà de ces facteurs biomédicaux, il y a évidemment tout un tas de facteurs sociaux qui exposent, comme le fait de travailler à l'extérieur, d'utiliser des transports en commun pour aller travailler, où est-ce que vous vivez, dans quelle zone, les conditions de logement, quel type d'emploi vous avez, quel type de contact vous avez avec la population. En dehors de ça, les contacts sociaux que vous avez pu avoir, les pratiques préventives, on en avait parlé, le dépistage, et puis bien sûr, l'accès aux soins et la prise en charge médicale. C'est juste pour vous dire à quel point les enjeux sont complexes, et c'est évidemment multifactoriel, et vous voyez que dans cette multifactorialité, les enjeux sociaux sont extrêmement prégnants, surtout que tous les résultats que je vous ai montrés auparavant, j'ai oublié de le dire, mais c'est des données qui sont ce qu'on appelle ajusté sur l'âge, c'est-à-dire que quand on montre qu'une population décède plus qu'une autre, ça s'explique pas par le fait qu'il y ait plus de personnes âgées dans tel groupe. On a ajusté sur l'âge, c'est-à-dire qu'on a, par une technique statistique extrêmement simple, neutralisé l'effet de l'âge. Et quand on dit que les personnes nées en Afrique subsaharienne décèdent 18 fois plus que les autres, c'est pas parce qu'elles seraient en moyenne plus vieilles, et donc ça ne s'explique pas par l'âge. Tout ce que je vous ai montré était, entre guillemets, nettoyé selon l'âge, enfin, tenait compte de l'effet d'âge. Donc c'est vraiment un effet spécifique de ces variables. Voilà. Donc, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est tous les autres facteurs. Je vais m'appuyer sur l'enquête EPICOV, qui est une grande enquête de cohorte qu'on a montée en urgence au moment du Covid. Je n'aurai pas le temps de développer, mais on a monté en 15 jours une enquête qu'on a posée avec l'INSEE, l'adresse, et puis beaucoup de collègues de l'INSERM, de l'INED, des universités. On a monté une énorme enquête auprès de 300 000 personnes en l'espace de quelques jours. Personne n'avait jamais fait ça de sa vie. On avait monté juste une semaine avant aussi l'enquête Saprisse qui s'appuyait sur des cohortes épidémiologiques existantes. Je vais m'appuyer aussi, donc ces deux enquêtes, je les connais vraiment bien, évidemment, puisque je m'occupais des deux. L'enquête Trakoff, qui est une enquête de la DARES, qui est une enquête qui a été faite sur l'évolution des conditions de travail perçues avant et après la pandémie. Et puis sur des recherches de données, des recherches qualitatives. En fait, je ferai ça à chaque fois, c'est d'essayer de vous montrer comment le quantitatif seul, c'est intéressant, mais ça ne permet pas vraiment de comprendre très bien les processus, alors que les approches qualitatives, elles permettent, elles, vraiment de comprendre finement ce qui se passe, plus finement. Bon, je vous ai mis une diapositive mais je vais la passer. Voilà, en fait, on a tiré 300 000 personnes au sort. Ça, c'est important. C'est juste pour vous dire, ça n'a rien à voir avec les sondages que vous entendez toute la journée. C'est des enquêtes scientifiques avec des méthodes aléatoires. Et les personnes, elles ont été suivies en mai 2020, en novembre 2020, en juin 2021, en octobre 2022. À chaque fois, on réinterrogeait les mêmes personnes, pour voir comment les choses évoluaient. Alors, je vais essayer comme de pas trop vous abreuver de statistiques, mais j'ai fait une petite sélection là pour vous montrer sur trois indicateurs, j'ai envie de dire tout bête, la densité de votre lieu de résidence. Est-ce que vous habitez au milieu de la Creuse ou est-ce que vous habitez à Bobigny? Est-ce que vous êtes dans un logement surpeuplé au sens de l'INSEE? Et est-ce que vous avez ou pas télétravaillé pendant le premier confinement? Donc ça, c'est les chiffres ici, c'est la population générale. Bon, il y a très peu de différence entre les hommes et les femmes, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais m'attarder sur la profession et sur le fait d'appartenir ou pas à une minorité racisée et l'indice de pauvreté. Ben, vous voyez que habiter dans une densité, dans une zone dense, 53% des cadres et 43% des agents de nettoyage, c'est les limites de la statistique, c'est pas du tout les mêmes zones denses, hein. Là, c'est les centres-villes de Paris, Lyon, Marseille, et puis là, c'est Bobigny, Sarcelles, etc. Donc, mais dans les deux cas, il y a de la densité. Et quand vous allez acheter votre baguette ou faire des courses chez Franprix, vous avez une probabilité de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup plus élevée que si vous habitez une maison particulière dans le 16e arrondissement de Paris. Donc c'est pour ça que l'indicateur est intéressant. Mais pas suffisant, vous voyez bien, puisque ça donne des niveaux élevés pour deux catégories très opposées et où le virus ne circulait pas de la même manière dans les deux exemples que je viens de donner. Le logement surpeuplé, 21% des personnes qui ont exercé comme agent de nettoyage homme ou femme vivaient dans un logement surpeuplé, 10% des cadres supérieurs. Et là encore, le surpeuplé, c'est plutôt le jeune couple qui démarre bien dans la vie et qui a un petit appartement dans le centre-ville de Paris versus des logements surpeuplés avec beaucoup d'enfants dans des zones urbaines fortement densifiées. Le télétravail. Un 4 sur 2 a bénéficié du télétravail pendant le premier confinement, personne chez les agents de nettoyage. La population majoritaire, 31% vivent dans des lieux de résidence élevée, de densité élevée, 72% des minorités racisées. Donc vous voyez là, la cartographie commence à se colorer un peu de manière différente, quoi. Si vous prenez les logements surpeuplés, c'est 40% des minorités racisées, 9%. Des personnes blanches nées en France, françaises nées en France de parents français. Le télétravail, là aussi, vous avez des écarts marqués. Et quand vous regardez selon l'indicateur des ménages, des revenus, c'est basé sur la déclaration de revenus, 46 pour pas de différence pour la densité. Mais quand vous regardez sur le logement surpeuplé, ben 29% des plus pauvres vivent dans un logement surpeuplé et 5% des plus riches. Et puis pour le télétravail, 42% contre 12%. Donc vous voyez se dessiner une cartographie sociale d'indicateurs très simples qui montrent que l'exposition au risque de contracter le virus est extrêmement différente selon les caractéristiques sociales des personnes. Et un des résultats les plus spectaculaires de cette enquête pour moi. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais vous commenter les deux chiffres importants. C'est ce qu'on appelle des modèles qui permettent de tenir compte de toutes choses égales par ailleurs et d'être sûr que quand on montre que, par exemple, que les premières générations nées en dehors de l'Europe ont un taux de prévalence, on testait les gens, on leur envoyait un test à domicile et on avait leur sérologie, de 9%. Contre 4,1%, donc plus de deux fois plus par rapport aux personnes nées en France de parents français et de nationalité française. Nées en France de parents français ayant une nationalité française, vous voyez une différence très importante et qui est statistiquement significative. Ça veut dire ce 2,4 que les personnes nées en dehors d'un pays européen avaient, toutes choses égales par ailleurs, 2,4 fois plus de risque d'être contaminées par le virus que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'analyse univariée. Je viens de dire une grosse bêtise, vous oubliez. Ces personnes avaient globalement 2,4 fois plus de risques de contracter le virus. Pas toutes choses égales par ailleurs. C'est là le toutes choses égales par ailleurs. Il arrive là. Et en fait, quand on tient compte cette surexposition des personnes nées en Afrique subsaharienne, pour dire les choses rapidement, elle existe, elle est vraie, elle est indéniable et ce genre d'enquête permet de l'objectiver. Mais ce que permet ce genre d'enquête, c'est de montrer que, en fait, cette surexposition-là, ce 2,4 qui est significatif, il devient plus significatif quand on tient compte de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, etc., de leur lieu de densité, du fait d'avoir télétravaillé, etc. Pour le dire simplement, j'espère que vous me suivez, de fait, pour de vrai, ces personnes sont surexposées au risque de contracter. Elles ont une sérologie qui est 2,4 fois plus souvent positive que les autres. Mais ce sur-risque, il ne devient plus significatif quand on tient compte du fait que ces mêmes personnes, elles ont plus souvent utilisé les transports en commun, elles ont plus souvent des logements surpeuplés, elles vivent plus souvent dans des zones de densité, etc. Quand on tient compte des conditions de vie de ces personnes et des conditions de travail, statistiquement parlant, leur surexposition n'est plus significative. J'espère que je ne vous ai pas toutes et tous perdus. Le message important à retenir, c'est que oui, certains groupes sociaux, et en particulier appartenant à des minorités racisées, ont été beaucoup plus touchés que les personnes de la population de référence française née en France, etc., etc. C'est un fait, mais que l'explication de ça, ça n'est pas que ces personnes ont des gènes particuliers ou je ne sais quoi, ni d'ailleurs que ces personnes se protègent moins. Je vais revenir dessus dans un instant. Donc ça, c'est un résultat extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Cette surexposition, elle est liée à des conditions de vie structurelles et de travail spécifiques. Voilà. Donc c'est pas, voilà, il y a des explications sociopolitiques à cette surexposition. Et là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est pour compliquer un petit peu le paysage. Hein, après, ça va se simplifier. C'est que ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une évolution du profil social de l'épidémie très tôt. C'est-à-dire que juste entre avant et après le confinement, c'est pas les mêmes personnes qui ont été touchées. Avant le confinement, les personnes infectées, vous voyez, ça descend là, hein, d'accord ? Avant le confinement, et puis là, ça monte selon le gradient social. En fait, avant le confinement, voilà le gradient qu'on observait. Les personnes qui se sont contaminées avant le premier confinement, il y avait un gradient social, c'était plus les personnes des milieux sociaux les plus favorisés. Et quand le confinement est arrivé, il y a une inversion de la dynamique sociale de l'épidémie. C'est-à-dire qu'avant le confinement, tous les gens qui sont les personnes qui sont contaminées en janvier, février, tout début mars, c'est des personnes qui se sont contaminées lors de voyages, lors de sorties au restaurant, etc., etc., etc. Et après le confinement, les personnes qui se sont contaminées, c'est les personnes qui sont allées travailler, les professions de santé, bien évidemment, mais aussi toutes les professions essentielles. Et donc, on a un basculement social de l'épidémie. Là, c'est voilà. Après, il n'y avait plus de voyage en avion. On prenait plus le train. On n'allait plus au théâtre. On n'allait plus au restaurant. Et tous ces modes de contamination qui étaient majoritaires dans les groupes sociaux les plus aisés, ben quand ils ont été confinés, c'était terminé. Alors que les autres personnes des milieux les plus défavorisés, ben ils n'allaient pas beaucoup moins au restaurant, beaucoup moins, ils prenaient pas l'avion, etc., etc. Donc ils ont été moins contaminés. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a pu capter ce moment-là de retournement de la dynamique sociale de l'épidémie et montrer en même temps que les facteurs sociaux sont extrêmement importants, ils peuvent jouer dans un sens ou dans un autre, et comment une politique de prévention, en l'occurrence le confinement massif qui s'est mis en place, finalement a protégé davantage certaines populations que d'autres. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas confiner du tout, hein. Je dis juste que ça montre que des politiques de prévention aussi fortes que le confinement peuvent jouer de manière différente. Et là, je vais m'inspirer des travaux d'une de mes collègues de l'INED qui s'appelle Anne Gosselin, qui a beaucoup travaillé sur les pratiques de prévention dans la première vague de l'épidémie. Et elle a montré que, globalement, dans cette première vague de l'épidémie, les hommes portaient moins souvent le masque de manière systématique que les femmes. Ça, c'est pas très étonnant, hein. On sait la distance sociale, ça renvoie à tout ce que j'ai dit le 3 avril aussi, hein, sur le rapport à la santé des femmes et des hommes. Les jeunes portaient moins souvent de manière systématique le masque que les personnes les plus âgées. Et les personnes en bas de l'espace social, les ouvriers, les employés et les immigrés et leurs descendants portaient, eux, plus systématiquement le masque que la population générale. Voilà. Et là, vous avez un graphique qui est repris d'une de ces publications que Anne Gosselin et que j'avais faites aussi avec elle, sur le pas d'usage systématique du masque. Et ça, c'est important, parce que ce que je vous ai dit avant, ça vous, si vous n'étiez pas convaincu, ça vous montre que c'est encore plus vrai. C'est que cette surcontamination des populations racisées, c'est pas lié au fait qu'elles se soient moins protégées, au contraire. Elles étaient plus enclines à utiliser le masque, à utiliser des gels hydroalcooliques et à respecter les distances. Donc, ces populations les plus précaires qui sont les plus touchées, c'est pas parce qu'elles se protégeaient moins. Pour l'histoire du vaccin, c'est une autre histoire. On en verra après, parce que là, ça fait appel à d'autres logiques. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment important, c'est que cette cartographie sociale, elle est liée à des logiques structurelles qui renvoient à des politiques sociales qui date de décennies de mise en place, de relégation dans certaines zones cette politique de l'habitat, une ségrégation aussi du marché, ségrégation raciale du marché du travail. Et là, c'est une diapositive que j'ai empruntée à l'équipe de Thomas Coutreau, qui montre aussi que sur les lieux de travail, le non-respect de la distanciation, qui était de 59%, était plus élevé quand il y avait des conflits éthiques au sein de l'entreprise, pas d'aide du supérieur, du bruit ou pas de moyens suffisants. Donc, le fait de pouvoir respecter la distanciation, c'est pas, on le sait très bien en santé publique, il suffit pas de savoir pour se comporter comme il faut. On sait que fumer c'est pas bien et on fume. On sait qu'il faut prendre, enfin, c'est derrière, il y a toujours une série de logiques et déterminants qui modulent la possibilité ou non d'adopter des pratiques de prévention. Et là, vous l'avez avec les conditions de travail. Voilà. Alors, j'en viens justement maintenant aux conditions de travail. J'ai passé là-dessus. Et là-dessus, si je veux qu'on ait un peu de temps, ça c'est l'étude de Trakoff qui montre, c'était en Île-de-France, c'était juste pour vous montrer les métiers les plus contaminés. Voilà, c'est les agents d'exploitation des transports, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, armée, police, médecins et assimilés. Donc vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, si vous êtes au fond, vous ne voyez pas ? Si, si. Ah, on voit, ah, c'est bien. Moi, je ne les vois pas très bien. Sans lunettes, c'est mieux. Non, mais ce que je voulais juste vous montrer cette diapositive parce que ça montrait à quel point il y avait une diversité. On a parlé beaucoup des médecins, heureusement. On a parlé beaucoup des infirmiers. On a beaucoup moins parlé des aides-soignants. Et, d'ailleurs, aides-soignantes en général, vous allez le voir dans un instant. L'armée, etc., etc. Donc, vous avez comme ça toute une série pour vous montrer à quel point la diversité des populations qui ont été exposées de par leurs conditions de travail à cette épidémie. Voilà. Alors là, j'emprunte ça à une de mes collègues de l'INED, trois de mes collègues de l'INED, Émilie Kounil, Narges Gouroubi et Myriam Klatt. Ça, ça paraît compliqué, hein. C'est pas pour faire sérieux, mais c'est parce que c'est des chiffres qui permettent de tenir compte de toutes choses égales par ailleurs. Donc ça fait des résultats quand même très solides, très fiables. Et là, c'est pour vous montrer que, en fait, il y a un lien, évidemment, vous allez me dire, on s'en serait douté, mais en science, on s'en serait douté, c'est toujours mieux de le démontrer, qu'il y a un lien très fort avec la classe qu'on occupe. Donc ça, c'est les classes sociales upper, les plus hautes dans la hiérarchie professionnelle. Il y a un gradient comme ça. Et vous voyez que les contacts avec le public pendant la pandémie, vous voyez que plus on est en bas de l'échelle sociale, plus on avait des contacts avec le public, plus pas pour l'utilisation des transports, et ensuite de penser que son travail exposait à un risque de Covid, c'est très très lié là également. Et pour ça, c'est pour les régions les moins infectées. Si vous considérez les régions les plus affectées, c'est-à-dire le Grand Est, l'Île-de-France et le Sud, je crois, je me souviens plus, mais en tout cas sur le Grand Est et l'Île-de-France, vous voyez que là, les contacts avec le public, c'est aussi très lié à la position professionnelle. En gros, hein, les personnes qui sont dans des professions les plus en bas de l'espace social, c'est 2,4 fois plus de contact avec le public que les cadres supérieurs. Le fait d'avoir utilisé des transports publics pour aller travailler, 1,8 fois plus chez les populations les plus défavorisées. Donc vous voyez, ces facteurs de risque ne sont pas distribués au hasard dans la population. Et donc ça explique cette cartographie sociale que je vous ai présentée. Alors là, c'est un résultat non publié, mais je trouve qu'il est très, très clair. Je trouve qu'il est très révélateur. Vous allez voir, j'ai pris l'exemple d'une catégorie très, très particulière. En mai 2021, on avait une prévalence de 6,9% de Covid dans la population française. C'est le résultat de notre étude EPICOF. Vous voyez, si vous regardez selon le sexe, bah, y a une différence, un petit peu plus de femmes, mais c'est pas spectaculaire comme différence. Hein. Si vous regardez selon le métier exercé, là, vous voyez quand même des choses qui commencent à se dessiner. Et là, il faut regarder et les pourcentages et les chiffres, parce que tout est dans le doublé, si je puis dire. Vous voyez, donc on est parti d'un échantillon de 48 000 personnes, ce qui est énorme, hein, dans des enquêtes. Vous voyez, les aides-soignantes, donc 27 000, 19 000, on avait un peu plus de femmes, mais bon, c'est 6% de ça et c'est 7% de là. Hein, donc c'est pas parce qu'il y en a plus de femmes que le chiffre ici est plus élevé. Là, c'est intéressant, regarde les aides-soignantes. 464 femmes, pouf, 47 hommes. Bon, voilà, ça montre que de toute façon, la cartographie genrée des métiers du travail, les aides-soignantes, c'est... Les aides-soignants sont des aides-soignantes. Donc, on peut dire aides-soignantes, en fait. On devrait. 15,9% de prévalence chez les aides-soignantes, vous voyez. Chez les hommes, moins. Et on sait, par des travaux de sociologues, que la distribution du travail dans les milieux d'aides-soignantes entre les hommes et les femmes n'est pas la même. Ce n'est pas les mêmes tâches qui sont confiées. Les tâches les plus dégradantes, comme aller laver les malades, être en contact direct avec le corps, sont plus souvent confiées aux femmes aides-soignantes, alors que les hommes aides-soignants vont plus s'occuper des chariots et des choses comme ça. C'est les travaux de collègues sociologues qui ont très bien montré ça. Et quand on regarde la dernière case, parmi les personnes de minorité racisée, vous voyez... Alors, j'attire votre attention sur le fait que les chiffres, ce qu'on appelle, si je fais une comparaison statistique, les intervalles de confiance sont grands, donc la différence n'est pas statistiquement significative, mais elle est sociologiquement significative. Hein. Donc, vous voyez que c'est quand même incroyable, c'est les résultats. Hein. Vous partez de 7% pour tout le monde, et vous passez à 26%, pour les femmes aides-soignantes appartenant à une minorité visible, c'est à une minorité racisée. Donc et chez les hommes, il n'y en a plus. Hein, là, des minorités, elles sont plus cuites, donc on peut carrément plus calculer le pourcentage. Mais vous voyez à travers ce simple exemple la nécessité, l'intérêt de décomposer pour comprendre où se situent les problèmes. Si vous regardez que les femmes en général, ben voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, le 7% par rapport à 26% dans une sous-catégorie particulière de la population. Le problème, c'est que ces données-là, on ne les a pas. En routine en France, c'est qu'on les a dans nos enquêtes, et encore, mais ça c'est encore une autre histoire, c'est très compliqué d'avoir ce type de données. Là, j'ai pu me baser que sur le lieu de naissance, c'est pour ça que j'ai pas mis minorité racisée, parce que c'est le lieu de naissance d'Ego et la nationalité d'Ego et de ses parents, parce qu'on n'avait pas le droit de recueillir des données. Légalement, on a le droit, hein, mais c'est compliqué, mais on pouvait pas, en l'occurrence, on n'a pas pu recueillir des données, voilà. Qui permettent de dire si les gens se considéraient comme noirs, blancs, ce qu'on a fait dans d'autres enquêtes et qui marche très bien d'ailleurs. Et là, c'est une méthode encore plus sophistiquée, là où, voilà, qui statistiquement tient la route, et qui montre que, voilà, entre le risque de Covid est 2,5 fois plus élevé chez les femmes de middle executive, donc situées au milieu de l'échelle sociale, employées dans les professions de santé. Les travailleurs manuels racialisés, donc là, c'est, vous voyez, c'est aussi très, très élevé par rapport aux hommes français nés en France ou aux femmes françaises nées en France, etc. Donc, vous voyez, il y a un gradient aussi. Et là, c'est solide statistiquement. On peut dire que les différences sont vraiment significatives. Bon, moi, je ne vais pas vous abreuver trop de tout ça, mais il m'a coupé des... Alors là, il est parti, le monsieur, mais il m'a... Attendez. Ah non, voilà, il m'avait pris quelque chose. Je voulais, avant de vous faire une vue d'ensemble et laisser un peu de temps à la discussion et questions, je voulais aussi vous citer les travaux de mes collègues sociologues, et notamment le travail de Magali Roisin-Jonquière, qui, dans un article qui va sortir la semaine prochaine, je crois, dans la Revue française de sociologie, et qui a fait une étude sociologique très approfondie pour donner un peu de sens aussi à ces statistiques que je viens de vous présenter sur les conducteurs routiers. Et je vous ai mis ici un extrait de son article, qui est très intéressant, parce que ces conducteurs routiers, dont tout le monde sait, hein, même si on en a peu parlé au début, qu'ils ont travaillé pendant le premier confinement pour assurer la continuité de l'approvisionnement, elle a rencontré des gens qui travaillaient dans la grande distribution, et dans un contexte, et c'est là aussi que c'est important à rappeler, c'est que le contexte de travail de ces personnes, il est fondamental à prendre en considération pour comprendre leur capacité de prévention au moment de l'arrivée de la pandémie. Donc ce contexte des conducteurs routiers dans la grande distribution, vous savez, une déréglementation très marquée, précarisation et pénibilité très importante de leur métier. Et puis soudain, la pandémie tombe sur tout le monde, arrive, et dégradation très importante de leurs conditions de travail, marquée par le risque sanitaire auquel ils sont exposés, d'autant plus que voilà, il y avait une mobilité géographique extrêmement importante, sans compter d'ailleurs les risques auxquels ils étaient exposés eux, et ils exposaient leur famille avec l'angoisse de revenir chez eux avec porteur du virus. Et dans ce contexte-là, il y a eu un allongement des amplitudes de travail et de l'accès aux infrastructures de services, par exemple la fermeture des restaurants routiers, des aires d'autoroute, et puis les réactions stigmatisantes auxquelles ils ont été confrontés parce que justement susceptibles de transporter le virus. Et donc ils ont eu des conditions de travail encore plus précaires et un travail encore plus important qu'en temps normal, avec moins de possibilités de par exemple de pouvoir bénéficier de restaurants avec des places séparées, etc., etc. Donc des regroupements autour des camions pour pouvoir partager des repas, etc., etc., etc. Et donc vous voyez, c'est un exemple très rapide, mais pour vous montrer à quel point des conditions de travail qui déjà étaient très précaires et organisées de manière peu favorable à, j'ai envie de dire, un bien-être et des pratiques de prévention. Et quand l'épidémie survient et oblige à des reconfigurations importantes, c'est encore plus de travail et encore plus de risques pour arriver à se protéger. Donc encore une fois, c'est pas du tout tant une question de connaissance des moyens de prévention que de la possibilité sociale d'utiliser, de pratiquer les gestes préventifs qui étaient nécessaires. Et là, c'est deux autres travaux de Thomas Coutreau d'une part et d'Emmanuel Garde. C'est l'étude de Thomas Coutreau à partir de l'enquête Trakoff dont je parlais tout à l'heure qui confirme exactement ce que trouve la sociologue que je viens de citer. Ils ont donc métier dévalorisé, mal rémunéré, etc. Donc encore une fois confrontés un surcroît de tâches, en particulier sanitaires, et à une forte dégradation de leurs conditions de travail, tout en étant surexposés au virus. Ça, c'est pas les conditions. Ça, c'est des travailleurs en général dans l'enquête Trakoff. C'est pas les ouvriers, les conducteurs routiers qui représentent une profession quand même très particulière. Voilà. Ça, c'est le point. Et l'autre chose importante, c'est l'autre étude aussi qui éclaire toujours dans le même sens. C'est une étude qui a été faite sur des personnes qui travaillaient dans la grande distribution alimentaire. Pareil, dans l'époque, hein, souvenez-vous, mars 2020, le confinement, l'angoisse, les questions, on ne savait pas comment se protéger de manière efficace, c'était tous les débats sur le masque, etc., etc. Donc peur pour ces salariés de la grande distribution d'être contaminés. Il n'y avait pas de masque sur leur lieu de travail dans les premiers temps. Donc elle a fait la grande distribution et la logistique du médicament. Augmentation de la demande, réduction des effectifs, cadence de travail. À chaque fois, on retrouve cette idée de cadence de travail décuplée. Et donc des conditions de travail extrêmement problématiques, des réorganisations de travail, des personnes malades, donc des changements de poste inopinés au dernier moment, etc., etc., etc. Voilà. Donc une fatigue physique, morale, qui s'est ressentie aussi sur tous les indicateurs de santé mentale. Mais à travers ces exemples, on voit bien que le vécu au quotidien dans des lieux de travail particulièrement exposés. Alors il y a eu aussi des travaux sur les professions de santé, sur les médecins, moins sur les aides-soignantes au moment du Covid, mais avec cette difficulté aussi qu'on avait. Nous, on avait voulu enquêter à l'hôpital, comment se faisait la prise en charge, etc. Et pour des raisons éthiques, c'était extrêmement compliqué d'abord d'aller. C'était tellement la panique dans les hôpitaux que d'aller mettre des sociologues pour dire. Bonjour, on vient voir ce qui se passe chez vous. Est-ce qu'on peut faire un entretien d'une heure et demie? Bon, non, puis sérieusement, enfin c'est sérieux ce que je viens de dire, mais sérieusement aussi, vous imaginez que, on n'allait pas exposer des doctorants ou des post-docs ou nous-mêmes au risque d'être contaminés quand on ne savait pas, vu la mortalité qu'il y avait au début de l'épidémie. Voilà. Alors, là, c'est aussi une dernière donnée qui a été publiée la semaine dernière, mais que j'ai voulu vous montrer parce que c'est un peu la fin de la chaîne que je vous ai décrite. Hein. Vous avez vu, on a beaucoup parlé aujourd'hui des conditions de travail, des conditions de vie, de la prévention. Et maintenant, quand on accède au système de soins, c'est une donnée, une étude de l'adresse. Donc ça, c'est les personnes qui ont été hospitalisées pour un Covid grave. Alors, la ventilation mécanique, je vous passe les détails, c'est quand on en arrive là, c'est que c'est vraiment très très grave, quoi. Et donc, ils ont regardé plusieurs indicateurs, donc la ventilation mécanique, les décès à l'hôpital et les transferts en service de soins de suite et de réadaptation. Mais si on regarde ne serait-ce que la ventilation mécanique, là, après c'est toujours dans le même sens, vous voyez que ça c'est les toujours par rapport aux revenus. Il y a un effet de revenu extrêmement important, c'est-à-dire que là, c'est les bénéficiaires de la CMU, de la CSS ou de l'AME, j'ai oublié. Mais à chaque fois, les personnes les plus en bas de l'échelle sociale, que ce soit parce qu'ils bénéficient de la CSS ou de l'AME, ou que ce soit parce qu'ils sont les plus pauvres, hein, les Q5, c'est les plus pauvres, et les Q1, c'est les plus riches, c'est les déciles de l'INSEE, c'est des revenus, hein, c'est pas est-ce que vous êtes riche ou pauvre, c'est qu'est-ce que vous avez déclaré dans votre déclaration de revenus. À chaque fois, les personnes les plus défavorisées ont eu un risque plus important d'être ventilées, c'est-à-dire que c'était vraiment un Covid très grave, de mourir, et pour transférer vers les soins de suite et de réadaptation, il n'y a pas d'effet. Mais vous voyez, cette surmortalité-là, c'est ajusté sur tous les autres facteurs. Comment elle s'explique ? Pourquoi les gens, c'est pas parce qu'ils sont plus vieux, c'est ajusté sur l'âge, c'est pas parce qu'ils étaient plus de pathologies cardiaques, c'est ajusté dessus sur tous les facteurs de comorbidité, sauf sur le tabagisme qui était très discuté et l'obésité. Et les hypothèses que proposent les auteurs de cette étude, c'est peut-être, mais en reconnaissant eux-mêmes, ils ont travaillé avec des réanimateurs, que c'est sans doute pas parce que ces personnes avaient plus d'obésité que les autres, que ça explique un tel gradient. Et le tabac, ils reconnaissent que c'est un... Vous savez, toutes les discussions, un coup il fallait fumer, après il fallait plus fumer. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que ces personnes sont arrivées plus tard à l'hôpital. Plus tard à l'hôpital. Donc vous voyez que... Et ça renvoie à tout ce que j'ai évoqué dans la leçon inaugurale sur le rapport à la santé, la perception des symptômes, les conditions d'accès au système de soins, les distances géographiques, etc., etc., etc. Mais vous voyez que ces conditions de vie là, qu'on retrouve pour expliquer dès le début une plus forte contamination, on les retrouve tout au long du processus jusqu'à la phase finale qui explique que l'hypothèse la plus probable, c'est retard d'accès au système de soins. Et ce retard, il est multifactoriel. Il n'est pas que lié à la distance géographique entre le lieu de vie et l'hôpital, même si ça joue beaucoup. C'est aussi lié à tout un tas de processus qui expliquent une certaine moins de fluidité dans les relations avec le système de soins et les travaux aussi, on en parlera une prochaine fois sur le ressenti des symptômes qui sont très genrés et très liés aussi à l'appartenance sociale. Mais vous voyez à quel point ces conditions-là, elles sont quand même trop souvent négligées et pourtant elles jouent partout jusqu'à la fin, j'ai envie de dire, jusqu'au décès. Voilà. Alors, oui ? Si. Non, là-haut, vous voyez, en fait, la barre, c'est là. Ouais. Tout ce qui est là, c'est significatif. C'est-à-dire que l'effet d'être bénéficiaire de la CM1, en fait, si on enlevait la variable revenu, il serait sûrement beaucoup plus fort. C'est que les personnes qui bénéficient de la CSS ou de l'AME, c'est souvent des personnes qui ont presque pas de revenus. Voilà. Mais ça a un effet, ce qu'on dit, spécifique. C'est-à-dire qu'indépendamment de tout, le fait d'avoir une AME ou une couverture, je sais plus, c'est le couverture CSS, c'est couverture, j'ai oublié. Merci, couverture ressemble. Ah. Voilà, en tout cas, c'est un effet. De toute façon, ça va dans le même sens. C'est moins fort, mais ça a quand même un effet de surmortalité par rapport à un petit effet qui est pas très important, qui est moins important que le fait d'avoir un revenu, d'être dans les 20% des revenus les moins forts. Mais vous imaginez, là ils ont pris des quand on divise en 5, c'est des quintiles. Des quintiles. Si on avait pris des... Non, décile, c'est 10. Non, mais là, ils ont fait 5 groupes de niveaux. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est comparé ils ont pris la population, ils ont coupé en 5 classes de revenus. Donc, c'est des, twintiles, des... Enfin, bon. Non, quartile, c'est 25. Quintiles. Bon, voilà, merci. C'est des quintiles. Imaginez si on reprend les approches à la Piketty, qu'on regarderait, si on regardait les 5%, voire les 1% les plus riches. Voilà. Je veux dire, le gradient est quand même déjà très fort, ne serait-ce qu'en raisonnant, ne serait-ce qu'en termes de quintiles. Voilà. Bon, je voulais garder un peu de temps de discussion, ça va être pas terrible. Ce que je veux dire, c'est que ce que montrent ces travaux sur le Covid et qu'on va approfondir dans l'heure suivante avec l'intervention de Laure Pitty sur une zone très particulière de Seine-Saint-Denis et avec une toute autre méthodologie, vous allez voir, ça va éclairer de manière passionnante ce qui s'est joué dans ce département. En tout cas, les inégalités qui étaient sociologiquement attendues, qui ont été repérées très vite, vous l'avez vu, dans tous les pays, on a retrouvé la même chose et qu'on voit que quand on tient compte simultanément pas que du genre, pas que de la classe, pas que de la race, mais qu'on essaye d'articuler ces différentes dimensions, ça donne d'autres intelligibilités à la réalité sociale et à cette cartographie sociale de l'exposition au virus qui est quand même beaucoup plus claire et qui du coup permet aussi des politiques de prévention, enfin devrait permettre des politiques de prévention beaucoup plus fines et beaucoup plus adaptées. Il y a quand même deux points aveugles sur l'étude des inégalités sociales en France, des inégalités de santé en France, et que le Covid a fait ressurgir de manière assez malheureusement spectaculaire, c'est d'avoir finalement pas assez d'informations, je dirais même presque en routine, sur la profession, parce qu'on voit très bien que les détails de la profession, si on parle des professions de santé, ça veut rien dire, on va mélanger les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, etc. Donc d'avoir des données précises sur les caractéristiques de l'activité professionnelle pour mieux pouvoir étudier les enjeux de santé et travail, et il y aura deux séances consacrées à ça dans les prochains cours. Et puis, la question de... Alors là, j'ai mis appartenance ethno-raciale, mais en fait, j'ai critiqué moi-même le terme d'ethno-raciale le 3 avril dernier, et je le reprends là, c'est pas bien, pour dire clairement que si on n'a pas des données comme les États-Unis en ont, comme la Grande-Bretagne en ont, on est incapable de surveiller... Voilà, on a une variable extrêmement vague comme... est né en Afrique subsaharienne. Donc toutes les secondes générations, on n'a rien sur eux. Et donc c'est un manque vraiment problématique. Aujourd'hui, ça paraît évident à tout le monde qu'il nous faut des données sur le sexe pour pouvoir comparer et travailler derrière sur les questions des rapports de genre. Mais on a besoin de données sexuées sur, je sais pas, si imaginez qu'on n'ait plus de données sur les différences de salaire selon qu'on est homme ou femme, qu'on n'ait plus de différences de données selon la prise en charge des tâches domestiques, selon l'Assemblée nationale, hop, il n'y a plus que des êtres humains, il n'y a plus de sexe, etc. Bon, je plaisante pas du tout, c'est des données de base pour comprendre une réalité sociale que nous n'avons pas, dans nos données statistiques en France. Et donc on réagit beaucoup plus tard parce que on met beaucoup plus tardivement. Il faut attendre qu'on monte des grosses enquêtes où on a des données et on n'est pas toujours, on peut toujours pas toujours collecter les données qu'on veut pour arriver à décrypter des enjeux qui sont fondamentaux et qui renvoient, comme on le verra la semaine prochaine, beaucoup aussi à la question des discriminations. Voilà. J'ai envie de dire pour conclure que ça montre aussi, et on le verra encore plus la semaine prochaine sur la question de la vaccination, ben, ça montre aussi les limites d'une politique de prévention qui reste, et ça a été malheureusement le cas pour le Covid, qui est restée basée dans une logique très épidémiologique où il fallait, à juste titre évidemment, protéger les personnes âgées qui sont plus fragiles, mais on voit que cette lecture épidémiologique en termes d'âge et de comorbidité, elle fait fi de toutes les logiques sociales et structurelles qui construisent une cartographie du risque qui est loin de se résumer à des différences selon l'âge. Parce que les derniers chiffres que je vous ai montrés là, pareil, c'est ajusté sur l'âge tout ça. Donc on voit très bien que toutes les données que je vous ai présentées sont toutes ajustées sur l'âge. Ça veut dire que c'est en plus de l'âge, il y a tous ces éléments-là qui interviennent. Et si on tient compte que d'éléments de type strictement épidémiologique, quand on s'enferme dans une logique épidémiologique, eh ben, on met en place des politiques de prévention qui ne réduisent pas les inégalités et qui, au contraire, contribuent à les accroître. D'où l'intérêt de ce type de travaux. Et vous allez voir que la présentation de Laure Pitty va venir, je n'en ai aucun doute, compléter, enfin, éclairer de manière très différente cette façon dont une épidémie est gérée, en l'occurrence dans un des départements les plus touchés, pas que par le Covid d'ailleurs, par beaucoup de problèmes de santé, et de montrer, voilà, si on ne tient pas compte de ça, on ne peut pas mettre en place des politiques de prévention qui soient véritablement efficaces. Donc on va faire une petite pause d'un quart d'heure, je crois que c'est ce qui est prévu. Je crois que le Collège de France ne nous offre pas le café, mais je ne sais pas s'il y a des distributeurs à café. Et dans un quart d'heure, on reprend avec Laure Pitty. Je suis désolée, j'ai été plus longue que je n'aurais voulu l'être et je ne vous ai pas laissé le temps de questions, mais on peut en parler dans la salle si vous voulez après. Voilà, merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.